Chers amis des cellules, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de l'aumône, l'une des trois armes données aux chrétiens dans le combat spirituel. Notre mot aumône vient d'un terme grec, eleemosune, qui signifiait à l'origine la miséricorde de Dieu, pour l'homme, qui pouvait signifier aussi la miséricorde des hommes par rapport à d'autres hommes, leurs frères. Mais dans les livres tardifs de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce terme est devenu spécifique pour désigner l'aumône, ce don que l'on fait aux pauvres. Si l'hébreu n'a pas de terme spécifique pour désigner l'aumône, sa réalité, elle, existe bien dans le peuple dès les premiers livres de la Bible. En effet, pour toute la Bible, l'aumône, geste de bonté de l'homme pour son frère, est d'abord une imitation des gestes de Dieu qui, le premier, a fait preuve de bonté envers l'homme. La réalité de l'aumône s'impose à l'homme parce qu'il est à l'image de Dieu, lequel fait preuve de bonté envers l'homme. « Vous avez reçu gratuitement, dira Jésus en Matthieu 10, 8, donnez gratuitement. » Avant même d'être un acte de compassion envers son frère en humanité, l'aumône apparaît donc d'abord comme un acte religieux où l'homme se comporte à l'image du Dieu provident, du Dieu qui prend soin des besoins de l'homme, parfois de la faiblesse de l'homme, de la fragilité. Jésus soulignera que Dieu fait lever le soleil et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il donne les conditions de vie pour toute l'humanité. Eh bien, de même, l'homme à l'image de Dieu est appelé à prendre soin des conditions de vie de ses frères en humanité. L'aumône est donc une façon d'être à l'image de Dieu, et c'était le premier point de notre entretien d'aujourd'hui. Le deuxième point consiste à regarder, du coup, en conséquence de cet exercice de l'image de Dieu, comment, dans la loi de Moïse, il y avait des exhortations concernant le travail de l'homme, pour laisser une place à l'aumône, pour prendre en compte l'aumône au sein même de son travail. On lit par exemple ceci dans le livre du Lévitique au chapitre 19, les versets 9 et 10, je cite, « Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ, tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Je suis le Seigneur votre Dieu. » On voit donc qu'il y a une part, on va dire, du fruit du travail de l'homme qui est laissé pour le pauvre, mais pas seulement le pauvre du pays, mais aussi l'étranger. C'est assez intéressant de voir que ce souci de la vie de l'homme s'étend au-delà, on pourrait dire, des frontières sociales, des frontières du peuple. L'étranger, lui aussi, est pris en compte. L'étranger pourra bénéficier de cette part de travail, le bout du champ, où lorsqu'on avait récolté la vigne ou fauché les blés, ce qui était tombé à terre ou ce qui resterait, on le laissait pour que les pauvres puissent manger. On trouve encore ceci au livre du Deutéronome, au chapitre 14, les versets 28 à 29. Je cite, « Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là, et tu les déposeras à tes portes. Viendront alors manger le Lévite, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve de ta ville, et ils s'en rassasiront. Ainsi le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. » Nous voyons donc qu'il y a une dîme, c'est-à-dire le dixième du produit de la récolte, qui tous les 3 ans est mis à disposition de ceux qui n'ont pas de terre pour subsister. Les Lévites, qui sont consacrés au service du temple, les étrangers, les orphelins, les veuves. On trouvera un même souci en ce qui concerne les fêtes liturgiques du pays. On le trouvera aussi à l'occasion de célébrations exceptionnelles, l'intronisation du roi David par exemple, où l'on va faire distribuer de la nourriture aux pauvres pour qu'ils participent à la joie de ce jour véritablement. Le livre de Tobie donne encore des recommandations sur la façon d'exercer l'aumône. Je cite le livre de Tobie au chapitre 4, verset 8. Mesure ton aumône à ton abondance. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins, mais n'hésite pas à faire l'aumône. On voit donc ici la possibilité de calibrer son aumône par rapport à ses biens, mais en même temps l'exhortation que l'aumône ait lieu. J'allais dire, quelle que soit la largeur de notre patrimoine, nous sommes appelés à l'aumône. Le livre de Tobie enseigne encore que l'aumône est une pratique à enseigner au cœur même de sa famille. Je vous cite le livre de Tobie, chapitre 14, verset 8. Et maintenant, mes enfants, je vous en fais un devoir. Servez le Seigneur en vérité et faites ce qui lui plaît. Imposez à vos enfants l'obligation de faire la justice et l'aumône, de se souvenir de Dieu, de bénir son nom en tout temps, en vérité et de toute leur force. Fin de la citation. Il est assez remarquable qu'il n'ait pas simplement dit « Parlez à vos enfants de la possibilité de faire l'aumône », mais imposer à vos enfants l'obligation de faire la justice et l'aumône. Il y a quelque chose de très fort, là, dans l'éducation, que les enfants découvrent, prennent part à cette pratique de l'aumône, et ne la voient pas comme quelque chose de facultatif pour ceux qui en auraient un grand plaisir par une grâce de la nature. L'Écriture nous donne encore quelques conseils sur la façon d'exercer l'aumône. On trouvera par exemple dans le livre du Siracide, au chapitre 4, au verset 3, ce conseil « Ne t'acharne pas sur un cœur exaspéré, ne fais pas languir après ton aumône le nécessiteux. » Il y a cette idée de ne pas tarder à faire l'aumône à celui qui est dans la détresse. Jésus, au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, insistera sur la discrétion. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi, ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une discrétion, donc, par rapport à l'aumône qui est exercée. Discrétion par rapport aux autres, on pourrait presque dire par rapport à soi-même, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Remarquons au passage que l'Écriture fait la distinction entre le nécessiteux et le paresseux. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, saint Paul dira « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Autant il y a un empressement vers celui qui est dans la misère et qui n'a pas la possibilité de vivre, qui est vraiment dans la détresse, autant il y a aussi une exhortation à ce que celui qui est capable de pourvoir à sa subsistance le fasse, mais que si c'est par paresse qu'il n'a pas son bien, qu'il ne mange pas non plus. Ceci est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, le verset 10. Remarquons encore que l'aumône ne se limite pas à un don d'or ou d'argent, à un don de monnaie. Le chapitre 3 des Actes des Apôtres nous le manifeste. Pierre et Jean sont sur le point de pénétrer dans le temple et il y a un impotent de naissance qui leur demande l'aumône. Et je cite le verset 4 à 6. Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean et dit « Regarde-nous ». L'homme tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Fin de la citation. Voilà que Pierre et Jean n'ont pas d'argent à lui donner, mais ils vont lui donner ce qu'ils ont, la grâce de Jésus. C'est ce qu'ils ont, ils le partagent. Et donc nous comprenons aussi que l'aumône donc ne se limite pas à l'argent, mais elle se limite au partage de la compétence que nous pouvons avoir. C'est lorsque, par exemple, un médecin va donner une consultation gratuitement, mais ça peut être aussi donner de son temps, donner de son ascension, de son attention, pardon, donner de ce que nous avons et de ce que nous sommes pour la vie de celui qui est en nécessité. Regardons maintenant les bienfaits promis à ceux qui exercent l'aumône. L'aumône est présenté d'abord comme attirant l'attention et la bienveillance de Dieu. Je cite encore le livre de Tobit au chapitre 4, verset 7. « Prends sur tes biens pour faire l'aumône, ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. » Je cite encore dans les Actes des Apôtres, l'ange qui est envoyé au centurion Corneille, et l'ange s'adressant à Corneille lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. » Celui qui s'est souvenu de ses frères en humanité, Dieu se souviendra aussi de lui. Dans le livre du Siracide, l'aumône est même assimilée à un sacrifice de louange. Je vous cite ceci au chapitre 35, verset 2. « Se montrer charitable, c'est faire une oblation de fleurs et de farine. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. » L'aumône est encore présentée comme un remède face aux conséquences du péché. Cela est peut-être l'effet le plus inattendu de l'aumône. Je vous cite le livre de Tobie, au chapitre 4, verset 10. « Car l'aumône délivre de la mort, et elle empêche d'aller dans les ténèbres. » Le livre de Tobie sera un peu plus précis, encore un peu plus loin, au chapitre 12, au verset 9, je cite, « L'aumône sauve de la mort, et elle purifie de tout péché. » Le livre du Siracide reprendra cette idée, au chapitre 3, verset 30, « L'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. » Fin de la citation. C'est intéressant de voir que nous avons là la trace de moyens non sacramentels pour obtenir le pardon des péchés. Voilà que l'aumône apparaît comme une façon d'être délivré du poids de ses péchés. C'est quelque chose de tout à fait intéressant pour les personnes qui ne sont pas en état de pouvoir recevoir le sacrement de la réconciliation jusqu'au bout. Cet effet n'est cependant pas un acte magique. Souvenons-nous de ce que dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 3. « Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ainsi, c'est lorsque l'aumône est pratiquée dans l'amour qu'elle déploie sa puissance de purification du péché. Dernier aspect que je relèverai, l'aumône est un acte qui demeure devant Dieu. Nous aurons ceci dans le Siracide, au chapitre 17, au verset 22. L'aumône d'un homme est pour Dieu comme un sceau. Dieu conserve ce bienfait comme la pupille de l'œil. Où l'on aura, par exemple, dans le Siracide encore, au chapitre 40, au verset 17, « La charité est comme un paradis de bénédiction, et l'aumône demeure à jamais. » Ou bien Luc, l'évangile selon saint Luc, au chapitre 12, le verset 33, « Vendez vos biens, donnez-les en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. » L'aumône est donc quelque chose qui est, on pourrait dire, acquis devant Dieu, et bien loin de nous appauvrir irrémédiablement, nous acquiert un bien pour l'éternité. On en comprend mieux la raison lorsqu'on se souvient de ce que Jésus dit au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, « Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donner l'aumône à un pauvre, c'est donner au Christ. Du coup, peut-être le carême est-il le moment pour nous de réviser notre état d'esprit par rapport à l'aumône, parce que l'aumône est un véritable état d'esprit dans lequel entrait une façon de vivre. Je peux m'interroger, est-ce qu'à chaque dépense importante que je fais pour moi, je prévois une part qui aille aux pauvres? Un peu comme dans le Lévitique, on disait que tu ne prendras pas les produits de ton champ jusqu'au bout, tu laisseras une part pour que le pauvre puisse en bénéficier. Cela peut être une résolution, si je me rends compte que j'ai un peu de mal à donner régulièrement, de dire, eh bien voilà, chaque semaine, je mets telle somme qui correspond à telle chose de côté, et du coup, ben, à la fin de mon carême, je pourrais donner cette somme accumulée. Ou bien de cette cagnotte, je sais que je pourrais prendre pour pouvoir distribuer gratuitement. Cela peut être un choix que de se dire, ben voilà, j'ai dans mon porte-monnaie un peu de monnaie exprès pour pouvoir donner. Rappelons-nous cependant que l'aumône ne se limite pas à l'argent. Et je voudrais peut-être rappeler pour conclure deux conseils que donnait le père Guy Gilbert. Par rapport à la question de savoir si la personne a vraiment besoin d'argent, il disait « Malheur à celui qui ne s'est jamais fait avoir », parce que, en voulant être sûr que celui à qui je donne en a vraiment besoin, on risque de rater vraiment celui qui en avait besoin, parce que c'était pas forcément si écrit que ça sur son visage. Deuxièmement, il disait aussi, quand vous donnez à quelqu'un, essayez de vous souvenir de la couleur de ses yeux, pour ne pas avoir donné à un parc-maître, c'était son expression, que à travers notre regard, nous ayons donné à une personne. C'est pour ça que parfois, on ne donne pas d'argent, mais on a salué la personne, on lui a dit bonjour, on a vu qui elle était, on a vu qu'elle était là. Chers amis des cellules, puissions-nous en ce carême reprendre le sens de l'aumône et l'approfondir. Je vous souhaite de bons échanges.